13h21. Les gens appréciés, l'entrevue elle sera disponible dans les prochaines minutes sur le site blvd.fm. Un autre homme en studio, David Chabot, que j'aime bien recevoir à chaque semaine sur les ondes de Boulevard 101, qui est en face de moi. Comment ça va, mon ami?
T'es pas tanné?
Ben non, on parle tout le temps de plein de sujets, puis tu sais, je reviens sur la discussion que j'avais avec mon chef, tu sais, un moment donné, quand on nous dit « ouais, mais les experts nous disent, ouais, mais les experts nous disent, ouais, mais les experts nous disent », tu sais, quand t'es un contribuable, là, puis tu regardes actuellement comment est le Québec, là, tu disais un peu, là, c'est tous des experts qui ont monté tout ça. Là.
Ouais, c'est ça.
C'est faut les écouter, là, mais à un moment donné, faut des fois comprendre qu'ils peuvent faire des erreurs et ou avoir d'autres intérêts. Mm. Mais cela dit, c'est peut-être juste moi qui est trop méfiant, mais faites des petites recherches sur la caisse de dépôt et de placement. Tapez caisse de dépôt et de placement, pot de vin, Inde. Vous allez savoir que parfois, ils peuvent avoir des intérêts autres.
Oui, il y a comme une concertation d'intérêts qui fait que ça fait bien des fois de dire la bonne affaire.
Exact. Puis jusqu'aux dernières nouvelles, des pots de vin, quand on donne ça, c'est pas légal.
En tout cas, pas
à
date.
À moins quand ma blonde m'en donne. Là, donne des pots de vin pour avoir... des services. Là. Peux-tu déneiger mon char?
Non, tu n'iras pas me chercher dans ta maudite conversation plate. C'est pourquoi tu es en train de dire tes niaiseries stupides.
Est-ce que c'est vrai t'as raconté qu'elle s'est fait rejeter par un homme en fin de semaine?
Ah oh non.
Hey, la ça, première là, fois qui, là, que je donne ça? Du temps de même en plusieurs
ouais.
mois.
Alors, attends un peu. Tous les gars okay, qui se sont fait swiper à gauche par Pascal CV sur les applications, si Pascal y a déjà été,
non,
c'est la grosse vengeance en fin de semaine. Là. Elle s'est fait revirer.
Moi, je me suis demandé, est-ce que j'en parle en nombre?
Elle a fait 5 heures de route.
5 heures de route, là, j'ai fait un aller-retour. J'étais intéressée, j'avais de l'affection, il me plaisait physiquement. Puis je me suis dit, je vais le faire, tu sais, je vais laisser une porte ouverte. Je me suis fait rejeter et mordre.
Mordre? Ouais. Au sens figuré, j'espère. Là.
Non.
Non, non.
Quoi?
Ouais. Elle est allée voir un bébé singe au zoo de Falardeau. Est tellement dur ces temps-ci, Pascal, là, que même un bébé singe mâle la refuse. Faudrait qu'elle améliore son comportement.
Il m'a jamais regardé.
Il l'a mordu.
Il est embarqué sur moi 2 secondes et demie. Il a sacré son camp sur tous les autres hommes qui étaient dans la pièce pour me faire dire il aime pas les femmes. Puis il m'a mordu avec ses dents bien pointues. Juste pour être sûr que je comprenne qu'ils veulent rien savoir.
Tu vois-tu la haine dans ses yeux? Pour vrai, je t'ai jamais vu genre intense de même.
Ben, j'ai dit ça, j'ai dit à Yannick.
C'est ça le rejet, Pascal. Hein?
Franchement. Fait que là, moi, c'est fini, tout homme. Je suis plus intéressé.
C'est ça le rejet.
J'aime pas les femmes, j'aime plus les hommes.
Et moi, le gros cash, là, j'écoute ça avec plein d'empathie. Tu sais, ah ouais, un homme t'a rejeté.
Ah ouais.
Il dit qui, pauvre petite?
T'étais sur le point de dire, ben moi, je dis, chum, là, célibataire, Pascal, il te rejetterait pas. Là,
c'est-tu quoi, son nom, c'était Roméo? Oh, yab! Le romantiste.
Ce sera pas sa Juliette. Oh, ça, c'est clair.
Il n'aura pas sous mon porche.
Roméo, ça cherche un petit Jules.
Ben, ça va.
David Chabot, comment ça va?
Ben, ça va bien. Je me suis pas fait refuser par un singe en fin de semaine. Fait que pour l'instant, ça va.
Il y a pas une guenon qui t'a dit non,
non
ce week-end?
Non.
Tu sais, même quand t'as un singe, te refuge, là.
Te refuse.
Ouais, toi, tu vas trouver refuge si tu en dis une affaire de même, non?
J'adore. Hey, on parle d'Elon Musk, qui est un personnage assez particulier. Là. C'est l'homme le plus riche de la planète. C'est un gars qui est extrêmement intelligent, qui envoie des astronautes dans l'espace. Puis que là, il s'est lié d'amitié avec l'homme le plus puissant de la Terre, qui est Donald Trump. Puis j'ai hâte de voir dans 5 ans l'impact des décisions qui se prennent aujourd'hui, tant par Trump que par Elon Musk aux États-Unis. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être positif ou négatif?
Ben, c'est un peu le même débat qu'avec l'Argentine, là, dans le sens de Afuera, puis genre, on coupe tout avec la chaîne ça, puis tout ça. Puis ben, en fin de semaine...
Parce qu'en Argentine, c'est Javier Milei.
Ouais.
Milei s'est lié d'amitié avec l'homme le plus puissant de la Terre, qui est dans Donald Trump, puis j'ai hâte de voir dans 5 ans l'impact des décisions qui se prennent aujourd'hui.
Ça t'arrive combien de fois de parler de ça avec Siri, là? T'as-tu besoin de compagnie,
là? Je sais pas pourquoi Siri, elle me parle.
Ça fait 3 fois par jour, ça.
Mais t'as-tu besoin d'un moment intime avec
ouais, c'est ça.
Non.
Fais pas de la route pour elle. Parce
avec
que...
ChatGPT, tu sais, tu peux y parler.
Elle m'a jamais rejeté, moi, Siri.
Elle t'a-tu mordu?
Fait, bref, Javier Milei, lui, il a fait le ménage, puis jusqu'à maintenant, ça semble bien fonctionner. Mais là, Elon Musk essaie de reprendre un peu les mêmes techniques qu'il a pris à Twitter, c'est-à-dire sacrer dehors 75% des employés, mais avec le gouvernement américain.
Tu sais, dans la vie, là, les solutions trop faciles à un problème compliqué, là, c'est rare, ça fonctionne. Okay? Puis moi, je vois ça en ce moment. Puis je suis comme toi, puis comme tout le monde, pour l'efficacité du gouvernement, puis de dire qu'on n'engagera pas du monde pour rien. Puis il y a certainement des programmes qui ne servent à rien dans la vie, là, ou qui ont été créés il y a longtemps pour des bonnes raisons, qui sont plus valables. Une révision des programmes, tout, j'en suis. Mais rentrer puis dire, moi, je lâche tout ça, puis je mets tout le monde à la porte. Puis là, ben, en fait, semaine, ce qui s'est passé, pour ceux qui l'ont manqué, parce que je trouve ça tellement savoureux, c'est que l'espèce de département qui gère la main-d'œuvre du gouvernement fédéral américain a envoyé un courriel à tout le monde disant, salut, fais-moi 5 bullet points, me dire qu'est-ce que t'as fait dans la semaine passée. Puis là, ben, ça, c'est la technique d'Elon Musk qui a fait ça avec Twitter, parce qu'il a mis le 3/4 du monde à la porte, parce que là, il s'est rendu compte que les gens, c'était genre, je mange des jujubes, puis j'ai jasé avec ma copine de bureau, tu sais. Fait que là, il se dit, ben, on va faire la même affaire avec le gouvernement fédéral. Mais là, finalement, tu te rends compte que même les super hardcore Trumpistes, comme le nouveau directeur du FBI, Kash Patel, a dit, ah, t'as un petit peu là, répondre à ce courriel-là. Il y a peut-être de l'information un peu confidentielle qui va circuler. Ouais.
Il s'est senti un peu insulté aussi, de ce que je comprends. Ben
oui. Mais le point à David est important. T'sais. Est-ce qu'ils vont aller en détail dans des choses où c'est pas nécessairement une valeur ajoutée qu'Elon Musk ou autre soit capable d'être élaboré? Puis, tu sais, y a-tu quelqu'un qui pourrait intercepter ces courriels-là?
Ben,
c'est super, Yannick. Dangereux en quelque sorte. Là.
Ouais, ben,
c'est un exercice d'un pitre qui essaie de gérer quelque chose.
Vous n'avez pas ben, un pitre, je veux dire, c'est quand même Elon Musk. Là.
Mais Yannick, c'est pas parce qu'il est... c'est pas parce qu'il a réussi dans certaines sphères. Ouais. Certaines sphères. C'est pas parce qu'il a réussi dans certaines sphères que c'est le gars qui peut gérer des paliers gouvernementaux.
Parce
là.
Que moi, je rêverais pas à ce niveau de gestion que là, lui, il a atteint. Là.
Mais je m'excuse, un gérant de go-kart, je le ferais pas quand même cuisiner mon repas pendant une année complète. Là. Ça dépend d'où est-ce que t'es bon. Là. Si t'es capable de mettre de l'huile à moteur qui sent le raisin dans ton go-kart puis de partir à bras, c'est pas la même chose que me faire le meilleur lunch de ma vie. Là.
Je comprends tout ça. Le courriel qu'Elon Musk a envoyé, c'est « Donnez-moi les 5 choses que vous avez faites dans la dernière semaine. Ne nous envoyez pas d'informations classifiées, bien entendu.
Ouais.
Puis vous envoyez ça à votre officier supérieur. » Puis de ce qu'on comprend, si les gens ne répondent pas avant ce soir, 23h59, c'est considéré comme une démission. C'est ça?
Ben c'est ça la game en ce moment. Mais tu sais, il y a 2 volets. Premièrement, je comprends que dans le courriel, il disait « Envoie pas d'informations classifiées. » Mais quand tu ouvres cette porte-là, tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer. Puis là, tu peux te retrouver avec quelqu'un qui envoie quelque chose que tu n'aurais pas dû. Bon, ça, c'est une chose. L'autre affaire, à quel point c'est insultant quand tu es un employé fédéral, puis c'est pas tous des cocos, là, les fonctionnaires. Là, on va arrêter de penser que c'est tous des caves qui veulent juste tirer de l'argent de la mamelle de l'État. Puis là, tu reçois le courriel qui dit « Hey, salut, fais-moi une reddition de compte. Ça vient de l'univers, mais dis-moi qu'est-ce que tu as fait dans la vie. » C'est un peu n'importe quoi, tu sais.
Connais-tu John Schwartz?
Ben, c'est lui qui a fait. Ouais,
tu le connais-tu?
Ben, personnellement, non.
Moi non plus.
Mais j'aimerais ça.
Pascal, tu connais-tu John Schwartz?
Non, pas personnellement.
John Schwartz a répondu au courriel d'Elon Musk, et j'ai ri pas pire. Il dit, bon, ce que j'ai fait, les 5 choses que j'ai faites dans la dernière semaine, j'ai pris de la kétamine, j'ai ignoré mon enfant, j'ai tweeté 1782 fois. C'est drôle, c'est exactement le même nombre de tweets qu'Elon Musk a fait la semaine dernière. J'ai mis des lunettes un peu weird et j'ai été humilié par des astronautes.
C'est quand même merveilleux.
Honnêtement, je pense que je devrais être mis à la porte pour ça, mais c'est ton call.
It's your call.
C'est exactement ce qu'Elon Musk a fait dans les derniers jours aux États-Unis. Oh, c'est des petits bijoux comme ça, mais c'est dans 5 ans. T'sais, moi, ce qui m'intéresse, ouais, David, puis je veux que tu me parles de cette affaire-là plus en détail, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça va te donner en bout de ligne? Ça va-tu être une catastrophe ou il va faire exactement ce qu'il a fait avec Twitter, c'est-à-dire il a liquidé 75% du staff qui était là puis ça n'a fait aucune différence sur le produit?
Ben, tu sais, les entreprises privées puis les gouvernements, ça se gère pas pareil. Puis oui, il faut gérer le gouvernement un peu plus comme une entreprise que comme une espèce de grande organisation où il n'y a rien qui est imputable de personne. L'inverse plutôt, personne n'est imputable de rien. Mais cela dit, tu sais, je vais prendre la USAID, mettons. Okay? Ça, c'est une agence que son but dans la vie, c'est de faire de l'aide humanitaire à travers la planète. Là, tu slashes ça, il a mis 1600 personnes à la porte, il coupe le budget genre de 80%. À court terme, tu te dis, hey, pourquoi je donnerais de l'argent aux autres si mes œufs coûtent trop cher à l'épicerie? Parce que c'est ça la toune en ce moment. Mais quand tu baisses ton influence à l'international...
C'est ça la toune en ce moment.
Oui, c'est ça la toune.
Tout est parfait.
Fait que là, t'arrives, puis là, tu coupes USAID. Fait que là, à court terme, là, je comprends que t'enverras plus de condoms à Gaza parce que là, ça a été ça le grand scandale avec USAID. Là, puis là, ben, mais il y a plein de programmes qu'on connaît pas qui sont vraiment importants parce que tu mets ton drapeau à cet endroit-là de façon figurée en disant « Les États-Unis sont arrivés, puis il n'y avait aucun intérêt en théorie pour vous aider, puis il a envoyé de la nourriture, de l'eau, des infrastructures, peu importe. Mais dans 5 ans, là, quand la Chine va venir cogner à la porte pour dire « Hey, salut, pays random d'Afrique, on va dire, parce que c'est beaucoup là que ça se joue en ce moment. »
Les Chinois sont souvent là.
Ben, c'est rendu qu'ils contrôlent la moitié, voire le continent au complet, parce qu'ils font exactement ça. Ils vont dire « Je vais te financer ton aéroport international à Ouagadougou, Ouagadougou.
Puis t'es extrêmement...
Ouagadougou.
T'es extrêmement pauvre, t'as aucune ressource. Tu te fais construire des hôpitaux, tu te fais construire des écoles, tu te fais construire des puits, tu te fais construire un aéroport en ce sens. Je veux dire, ça, c'est tough de dire non en se disant mais ils ont des intérêts autres, là, les Chinois. Puis ils en ont. Ils font pas ça pour, parce qu'ils sont des grands bienfaisants. Là.
Ben, c'est ça. Fait que là, tu construis ces infrastructures-là, puis là, il y a une dette qui est affublée à ça. Là. Puis là, ben finalement, le pays africain quelconque dans cet exemple n'est plus capable de payer la dette. Fait que là, la Chine dit ben parfait, je reprends mon actif. Mais là, c'est l'aéroport international du pays. Puis là, ça finit que tu n'as plus d'aéroport dans le pays. Tu sais, tu comprends? Cette espèce d'influence-là, tu la perds quand tu te retires complètement de la scène internationale avec des affaires comme USAID et d'autres choses. Puis là, je veux pas faire un grand cours historique là, de la guerre froide puis tout ça, mais dans le temps, il y avait le Peace Corps que ça s'appelait, puis ça, c'est Kennedy qui avait fondé ça. C'était au cœur de la guerre froide. Puis c'était vraiment des gens, souvent des étudiants ou des jeunes adultes, qui allaient en mission humanitaire à travers la planète. Là, comme tout le monde qui va construire des écoles en Amérique du Sud. Là, mais c'est un peu la même affaire, mais très, très structurée. Puis ce Peace Corps-là a eu tellement de retombées sur l'influence du bloc américain, on va dire, pendant la guerre froide, que c'est pas ça qui a fait la différence directement, mais ça a beaucoup influencé le résultat de la guerre froide. Puis les États-Unis ont resté l'espèce de grand arbitre avec le gelé barré à travers la planète longtemps parce qu'il était super influent ailleurs.
Ce que Trump veut faire, c'est qu'il veut se retirer de tout ça.
Ben c'est ça, c'est ce genre de mentalité-là. Là, c'est l'isolationnisme qui est un volet du Trumpisme là, qui rend vraiment un mouvement, mais... Quand tu slashes toutes les agences fédérales américaines qui ont ce type d'influence-là, ben, tu vas revenir au même résultat. Mais là, concrètement, il y a du monde au bout de la ligne qui ne recevront plus l'aide humanitaire ou le financement qui était promis.
Ouais. Réfléchissons ensemble à voix haute. Je n'avais pas prévu jaser de ça avec vous autres. Mais si on n'avait pas aidé Haïti tellement souvent, est-ce qu'Haïti s'en porterait mieux? Est-ce que Haïti se serait prise en main sans l'intervention constamment de tout le monde autour qui arrivait à chaque fois qu'il arrivait une tragédie?
Haïti, c'est un sujet qui est très compliqué parce que ça part de la colonie puis la dette qui a été laissée là-dessus. Puis l'espèce de statement de la France de dire « Ah ouais, vous voulez couper vos chaînes littéralement, vous allez payer le prix. » Fait que c'est pas nécessairement que l'ONU est allé trop souvent récemment, c'est que dans le temps, on a tellement setupé le pays pour que ça s'en aille nulle part à cause de...
J'ai des chums militaires qui m'ont rapporté qu'eux autres, ont été en mission. Là, puis la semaine passée, je parlais avec un autre... en fait, tu le connais. Là, je parlais avec William Trudel qui, lui, allait en mission à Haïti pour essayer d'épauler les services policiers qui étaient sur place pour essayer de leur montrer comment être de bonne police et tout ça. Tu sais, on les a tellement tout le temps aidés. Puis ce que les militaires m'ont dit, c'est qu'à un moment donné, est arrivé une tragédie, un genre de tremblement de terre. Et ça faisait plusieurs mois, plusieurs semaines que le tremblement de terre avait eu lieu. Puis quand ils sont arrivés sur place, il n'y avait aucune roche qui avait été déplacée. Parce qu'ils attendaient l'aide de l'extérieur.
Ouais.
Est-ce que Trump se dit à peu près la même affaire? Je ne suis pas sûr qu'il se rende jusque-là. Là. Mais est-ce qu'il se dit, tu sais, à aider tout le monde, les gens ne se prennent pas en main? Un peu comme ce qui nous arrive au Canada. C'est-à-dire, on dépend tellement du grand frère qu'à un moment donné, on est rendu dépendant du grand frère. Puis le grand frère dit, regarde, sais-tu quoi, je t'ai écœuré d'être ton grand frère. Occupe toutes tes affaires tout seul. Là, il faut se prendre en main.
Mais avec ses alliances actuelles, mettons, avec la Russie puis la Chine, là, moi, j'ai l'impression qu'il est un peu idiot parce que j'ai l'impression qu'il va se lancer lui-même dans la gueule du loup dans quelques années. Je sais pas comment tu vois ça, David, mais c'est pas très indépendant. Ce qu'il est en train de créer. Là, je comprends qu'il veut des alliés forts autour de lui, mais c'est du monde qui vont peut-être le manger économiquement puis socialement aussi. Là.
Ben, tu sais, un autre sujet que je voulais te parler aujourd'hui, c'est l'élection en Allemagne. Là, fait qu'on peut faire un lien très, très savoureux.
Ouais. Mais je veux juste terminer avec Haïti.
OK, ouais.
Tu sais, est-ce que l'intervention qu'on faisait constamment pendant des décennies avec Haïti, on n'a pas nui à Haïti? Ben, quand on va faire de l'aide humanitaire constamment ailleurs dans le monde, est-ce qu'on nuit pas à quelque part à cette population-là?
Ben, m'a donné l'exemple de l'Éthiopie.
Ouais.
Est-ce que tu sais, en ce moment, s'il y a beaucoup d'aide humanitaire en Éthiopie?
J'ai une de mes amies qui est là actuellement, mais non, c'est pas, y a pas énormément d'aide humanitaire.
Ça fait depuis 1993, le fameux Black Hawk Down, que tout le monde est sorti de là parce qu'ils se sont dit de la merde, on s'est fait tirer dessus, on ne reviendra plus jamais là-bas. C'est un état failli depuis ce temps-là. Fait qu'à un moment donné, t'as comme. Tu peux pas imposer, tu sais, on a fait l'erreur avec l'Afghanistan de se dire on va rentrer la démocratie, finalement ça n'a pas fonctionné, puis on est sorti de là, puis ils sont revenus au même point. Là. Fait que tu peux pas imposer un système social ou démocratique, mais tu peux certainement contribuer à mettre le leur en place. Puis là, c'est là qu'il faut pas que tu fasses de l'ingérence en leur disant c'est le même, ça va fonctionner. Mais excuse-moi, tu peux pas arriver là en disant ça va être notre façon de faire, puis vous allez exécuter, puis en même temps, tu peux pas non plus dire je vais massacrer complètement parce que tu vas revenir à l'Éthiopie.
Ça n'a pas fonctionné en Irak, ça n'a pas fonctionné en Libye, ça n'a pas fonctionné en Afghanistan.
Ben, l'Irak, en ce moment, c'est pas si instable que ça, mais c'était mieux avant, ironiquement, parce que t'avais un dictateur qui renait tout le show.
T'avais le roi des fous qui était en haut.
Là. C'est ça, mais ça tenait pareil, tu sais. Puis là, ben, ça va revenir à peu près à ça, là, parce que là, en Irak, en Syrie, là, en ce moment, ça c'est en train de converger vers des espèces de dictatures théocratiques un peu dans le même vibe qu'avant, finalement. Là. Donc, on va revenir à un état naturel de la chose, mais Haïti, pour spécifiquement, je suis pas le spécialiste comme, mettons, William peut l'être, là, mais ma lecture de ça, c'est qu'il faut que tu donnes un grand coup de barre pour dire au moins tu vas structurer Port-au-Prince, là. Puis après ça, ben, tu mettras des structures de gouvernance en place, mais il faut que tu aies une mission de maintien de la paix et de la pureté démocratique, si tu veux, pendant longtemps. Tu peux pas juste arriver et dire « bang, on met ça en place puis on s'en va » parce que finalement, ça va revenir au même point.
En Allemagne, actuellement, il y a plusieurs personnes qui trouvent que Musk l'échappe, puis pas à peu près. Mmh. Il appuie les partis d'extrême droite qui, eux autres, sont anti-immigration de masse. Ce qui est curieux, c'est les sondages là, à l'interne pour ce qui est de la population en général chez les immigrants légaux. Il y en a une bonne partie de ces immigrants légaux-là qui disent « Non, nous autres aussi, là, on veut sortir, on veut empêcher toute immigration illégale chez nous de masse. » C'est weird ce qui arrive. Là.
Bien, l'élection qui vient de se finir en fin de semaine, il y avait deux grosses thématiques. Il y avait l'immigration, puis il y avait, mettons, la vigueur économique. Parce que le gouvernement précédent, qui était les social-démocrates, comme des bons gauchistes de base, voulaient tout convertir dans la lutte au changement climatique, ce qui n'est pas une mauvaise cause en soi, mais aller trop fort, trop vite. Puis là, l'économie a grippé, puis en plus, ben, il y a toute l'histoire de la crise énergétique avec la Russie en ce moment, puis la guerre en Ukraine, puis etc. Donc là, le point économique était très fort, les gens veulent mieux vivre. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est l'immigration, comme tu dis. Puis les 4-5 principaux partis qui étaient là, il y avait toute une plateforme qui disait « faut faire attention à l'immigration ». Puis
Est-ce que c'était l'immigration ou l'immigration de masse? Parce qu'il y a une différence. Tu sais, François Legault, il est écœuré de l'immigration de masse. Ce qu'il veut, c'est une immigration contrôlée pour être sûr et certain de bien accueillir ces gens-là chez nous. Ce parti de droite-là ou d'extrême droite, je ne sais pas comment c'est considéré, ce parti-là, est-ce que lui, c'est anti-immigration totale ou immigration de masse?
Bien, ça, c'est l'alternative pour l'Allemagne. Ils sont arrivés deuxième là, avec, je vais te donner le pourcentage exact, 20,8%. Puis ça, juste la petite note, là, en Allemagne, c'est traditionnellement des gouvernements de coalition. Fait que c'est normal que tu n'ailles pas, mettons, 50% plus 1 parce que là, tu fais un assemblage avec des députés des autres partis, une culture qu'on n'a pas ici puis qu'on devrait avoir. Cela dit, alternative pour l'Allemagne, eux autres, ils ont dit toute forme d'immigration, on ferme les valves, on ferme les frontières même. Puis ça, c'est quand même particulier parce que tu es dans le milieu de l'euro avec la zone Schengen. Okay? Fait que là, petit cours d'histoire encore, Schengen, c'est de dire que tu n'as pas de frontières, tu n'as pas de tarifs de douane, tu circules comme tu veux en Europe, il n'y a jamais de poste frontalier. Sauf exception, puis cette exception-là a été appelée par l'Allemagne il n'y a pas si longtemps que ça, où tu peux ramener des postes frontaliers dans des crises de sécurité temporaires.
Comme en Italie, il y a eu un attentat dans les dernières années. Maintenant, ils vont faire un suivi sur qui entre, puis il y a des postes frontaliers avec un genre de tente. Comme vous voyez dans les événements où il y a des gens qui distribuent du café peut-être dans un marathon ou autre, c'est une tente comme ça, puis ils font une fois de temps en temps un genre de suivi sur qui passe.
Ouais. Mais en Allemagne, il y a un contrôle sur les immigrants qui tendent à rentrer dans le pays.
Bien, c'est ça la tendance. La dernière élection, beaucoup de gens parlaient de ça.
On surveille beaucoup les trains, on surveille certaines routes aussi pour être sûr et certain qu'on contrôle ce qui se passe.
Mais ce ne sera pas un contrôle parfait tant que tu ne mettras pas une vraie frontière, ce qui arrivera probablement.
Un mur,
c'est ça. Sauf que, tu sais, dans le fond, il y a eu deux grosses vagues d'immigration en peu de temps. Ils ont eu tout le Moyen-Orient, le printemps arabe, puis la guerre en Syrie a amené 2 millions de personnes en Allemagne d'un coup. Puis là, récemment, bien évidemment, la guerre en Ukraine a fait un peu la même chose. C'est deux types d'immigration très différentes, mais la constante de ça, c'est que les immigrants récents, là, ils ont un taux de chômage de 15, 20, 25. Donc là, la première vague, si tu veux, qui vient du Moyen-Orient, c'est quand même relativement bien intégré, malgré qu'il y a eu quand même un peu une hausse du terrorisme. Là, puis je fais pas d'amalgame entre les deux, mais il y a eu ça comme impact pareil. Mais là, avec autant d'immigrants en si peu de temps, c'est le même débat qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on fait avec ces immigrants-là pour leur apprendre la langue, la culture, leur donner un emploi?
On était-tu prêts au lieu de ghettoiser les affaires aussi? Parce qu'ils vont se rassembler avec les gens qui sont capables d'avoir des discours, de parler, mais ça fait en sorte qu'il n'y a pas un mélange des valeurs.
Puis il y a beaucoup de conflits dans les rues là, avec les immigrants illégaux.
Ouais, ben oui, c'est ça. Puis c'est une tension sociale que l'extrême droite, là, j'aime pas vraiment dire extrême droite parce que c'est tout le temps un amalgame. Là. Ceux que t'aimes pas, c'est un extrême. Là, mais dans ce cas-ci, alternative pour l'Allemagne, il ressemblait beaucoup au parti de Marine Le Pen. Puis beaucoup aussi la tendance trumpiste, là, c'est-à-dire de vraiment isolationniste, fermer les frontières, développement économique, puis Allemagne first. Là, puis ça s'est vraiment bien passé dans le passé, ça, quelqu'un qui dit l'Allemagne en premier puis qui veut fermer les frontières, là, ça s'est super bien passé.
Oui, on s'en souvient. Ça a été une belle histoire.
Puis là, ben ça, c'est quand même drôle. Ben c'est drôle, mais c'est pas drôle, là, mais... En ce moment, ce que Trump, pour revenir à la discussion de tantôt, dit « Là, l'OTAN, organisez-vous avec vos troupes en Europe, je suis tanné de payer pour vous autres. » The Front, je peux comprendre l'argument, mais là, tu vas réarmer, par exemple, l'Allemagne. Là, je veux pas faire de je veux pas présumer que l'Allemagne moderne va faire la même chose qu'avec Hitler dans le temps, mais la principale puissance au cœur de l'Europe qui a déstabilisé le continent deux fois back-to-back, tu leur dis, arme-toi, puis va à 3, 4, 5 de ton PIB pour bâtir des tanks, des missiles, des
C'est ça le problème, c'est que c'est extrêmement mal géré. Donc là, il y a comme un genre de peur qui s'est installé au sein du pays, ce qui fait en sorte que les gens vont se craquer l'un avec l'autre dans leur façon de voir les choses. Au lieu d'avoir... C'est pour ça qu'on parle de l'immigration, puis on n'en parle pas assez sur la manière dont on fait pour que ceux qui arrivent d'ailleurs soient bien intégrés, puis qu'il y ait un respect des valeurs, puis on peut le ramener ici au Canada. On est tout le temps en dichotomie avec le fait d'intégrer des gens, mais bien le faire, parce que à un moment donné, dans la tête d'un humain X là, que nous sommes tous, si la peur, l'incompréhension, puis la méconnaissance d'une autre culture prend le déçu sur notre façon de voir, on va quand même s'allier puis avoir des comportements qui sont douteux.
Non, je parlais avec un prof de socio, puis ce qu'il me racontait en fin de semaine, c'est juste le fait que les gens sont plus capables de se loger, là. Puis qu'ils voient qu'il y a des immigrants qui arrivent puis qui prennent des logements et tout ça, il y a comme une montée du racisme ou de la xénophobie, là, mais mettons du racisme. Parce que les gens sont privés du droit de se loger à bon prix, parce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur qui, eux, ben, ont une demande aussi pour les appartements. C'est très sensible là, quand tu gères ce type de société-là.
Mais en même temps, tu arrives puis il y a une pénurie de main-d'œuvre partout. Puis je veux pas juste dire que c'est du service de base. Là. Il peut y avoir de la main-d'œuvre aussi de bien... excuse-moi, de bien payer, puis les mêmes gens qui vont chialer parce qu'il y a beaucoup d'immigration vont aussi chialer parce qu'il n'y a personne pour travailler pour les aider.
Exact.
Fait qu'à un moment donné, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, puis le taux de natalité, ben il est en chute libre depuis 50 ans. Puis c'est vrai partout en Europe aussi, tu sais.
Toi, c'est quand, là?
Ah là, commence-moi pas là-dessus.
Ben là.
Tu as-tu posé cette question-là en nom de Yannick Pansy?
Exact.
Okay, non, faut pas que ma douce nous écoute. C'est un débat très, très criant de ce temps-là.
Ah ouais?
Va pas jouer dans les sous-couches des coupes des gens, toi. Raccroche.
Ah, toi, Pascal, qu'est-ce que tu fais pour la société?
Je me pratique.
Tu te pratiques?
Tu vas te faire mordre par des chimpanzés.
fallait être là tantôt. David Jabot, c'est toujours un plaisir, mon ami, puis on te reparle la semaine prochaine. Yep. Nous autres, on s'en va en musique. J. Scott, Woodstock sur Boulevard. Je sais plus où on s'en va quand je